Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire qui remonte au 19e siècle. Une jeune femme, une femme galante, Camille-Marie Inquiétant, qu'on retrouve en janvier 1886, égorgée chez elle. Son assassin finira sous la guillotine, mais vous verrez, la justice française a dû déployer beaucoup d'énergie pour le coincer. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel tout à l'heure à un historien, Bernard Hauteclocque, spécialiste de la police sous la Troisième République. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous voilà à Paris en janvier 1886, dans la dernière ligne droite du 19e siècle. La triste héroïne de mon histoire s'appelle Camille Marie Inquiétant. C'est une femme qui aime les hommes, ça c'est clair. Elle se fait picorer le bonbon plus qu'à son tour. Et si elle aime les hommes, c'est surtout pour leur argent, ça c'est clair aussi. Mais ne vous méprenez pas. Ça n'est pas une crocheteuse de culottes, comme on dit à l'époque, ni une paillasse à marmiton. C'est une femme galante. Ah, ça change tout, hein. C'est tout pareil qu'une putain, sauf que ça joue dans la haute, et que ça ne se fait pas payer sur la table de nuit. Une femme galante, ça se fait entretenir. Vous apprécierez la nuance. Bref. Ce soir de janvier 1886, Camille-Marie Inquiétant a rendez-vous avec Jules, chez elle, au 52 rue Comartin, dans le 9e arrondissement. Jules, c'est son amant attitré. Elle en a d'autres, hein, beaucoup d'autres, mais Jules, disons que c'est son préféré. Il n'est pas très riche, hein, Jules. Il est serveur au centre franco-américain. Et justement, le voilà qui en sort. Il est 3h15 du matin. Et il ne pense qu'à elle, Camille-Marie, qu'il va retrouver dans un instant. Il sait qu'elle voit d'autres hommes, mais il ne veut pas en savoir plus. À cet instant précis où il arrive en bas de chez elle, il est l'amoureux de Camille-Marie. Son petit rognon, comme on dit dans ces années-là. Il en est tout émoustillé. Le voilà qui sonne à la porte et qui franchit le porche. En montant l'escalier en fond de cour vers l'appartement de la belle, au 3e étage, il se dit, tiens, il y a de la lumière dans la cuisine, à 3h15 du matin. C'est étonnant. Il ouvre la porte de l'appartement de Camille-Marie. La bonne est là, Barbe, en travers du couloir. Mais enfin, que faites-vous là, Barbe? C'est que madame est encore avec un monsieur, dans sa chambre. Barbe, qui loge dans une chambre au 6e, ne monte jamais se coucher tant que madame est avec un homme. Mais Jules, à 3h15 du matin, de savoir Camille-Marie au pieu avec un autre, ça lui met un coup. Alors il se rue dans la chambre à coucher avec la ferme intention de déloger l'intrus. Mais il n'y a pas d'homme dans la chambre. Il n'y a que Camille-Marie en bas et en chemise étendue sur le tapis, les cheveux défaits. Et la tête coincée entre le mur et la grille de la cheminée. Il se dit, elle a fait un malaise, il se jette sur elle pour la secourir. Juste ciel, la tête lui reste dans les mains. Elle a une plaie béante à la gorge. Elle a été décapitée. Et lui maintenant, il est couvert de sang. Barbe ! Barbe ! Mon Dieu, venez vite ! Et apportez une lampe ! Hagard, choqué, ils font tous les deux le tour de l'appartement. Regardez, Barbe. La porte du salon est fermée à clé. L'assassin est peut-être enfermé dedans. Allons au commissariat de la Chaussée-d'Antin tout de suite. Il faut prévenir la police. Le commissaire Tomasi arrive le premier. Et vers 5h du matin, débarque Taylor, le chef de la sûreté, et le juge Adolphe Guillot. Ce qui est étonnant, monsieur le juge, c'est qu'il n'y ait aucun désordre dans l'appartement. Et pas non plus de traces de lutte. C'est étonnant, en effet, monsieur le commissaire. Avez-vous trouvé l'arme? Ben non. Elle n'était pas sur place. Un couteau, pensez-vous? Un couteau ou un rasoir, c'est difficile à dire. Tenez, monsieur le juge, voici la bonne de madame Aguétan. Barbe, hein, c'est cela?
C'est cela, monsieur le commissaire.
Est-ce que vous savez ce qu'a fait votre maîtresse hier soir?
Évidemment, je le sais. Elle est allée à l'Eden Théâtre, comme souvent, et elle est rentrée accompagnée d'un homme.
À quelle heure?
Vers 11h.
Les policiers s'aperçoivent que le tiroir au bas de l'armoire à glace a été forcé, et qu'il est vide. Monsieur, vous étiez proche de la morte, je crois. Savez-vous ce qu'il y avait dans ce tiroir?
Pour ce que j'en sais, les billets d'août de ses amants, son argent, ses bijoux, et d'après ce qu'elle m'en a dit, des titres de rente nominatifs.
La bonne dit qu'elle n'a rien entendu et qu'elle croyait sincèrement que madame était toujours à ses affaires dans sa chambre. Vous n'avez pas vu l'homme repartir?
Oh mon Dieu, non.
Est-il possible qu'il ait traversé l'appartement sans que vous le voyiez?
En principe, non. J'ai dû être inattentif. Je m'en veux.
Dans les immeubles parisiens dans ces années-là, c'est la concierge qui ouvre la porte, nuit et jour. Bonjour madame, police. Un homme a quitté l'appartement de madame Aguétan cette nuit. Il a dû vous demander d'ouvrir. Vous en souvenez-vous?
Ah ben oui, ça je m'en souviens bien.
Quelle heure était-il?
Oh, je n'en sais rien, c'était la nuit, je dormais. J'ai ouvert machinalement.
Vous pourriez le décrire, cet homme, madame?
Ah non, je vous le dis. Je m'en veux terriblement, mais... J'ai ouvert sans regarder. C'était en pleine nuit, vous comprenez. Si je regarde, je n'arrive pas à me rendormir.
Il ne sert donc à rien d'avoir une concierge. Il n'y a qu'à laisser la porte ouverte. La suite, vous la devinez, c'est une pratique vieille comme la police.
Bien. Trouvez-moi qui étaient ses amis. Les gens qu'elle fréquentait.
Les policiers identifient deux amies IES de Camille Marie. Elles aussi habituées de l'Eden Théâtre, Jeanne Richard et Marie-Jeanne Fontanier. Ils retrouvent aussi son ancienne bonne, Rosalie, et sa couturière, Madame Parent. Toutes connaissent les habitudes de Camille Marie.
Bon, ce que nous cherchons, c'est un homme qui était avec elle dans la nuit du 14 au 15 janvier.
Il y en a un auquel je pense. Elle le fréquentait depuis quelques semaines. Un homme de petite taille, le teint mat, une moustache et une pointe d'accent étranger. Je suis bien d'accord avec la description. Mais j'ajouterais moins que... C'est un homme qui a l'air narquois.
Et vous savez comment il s'appelle?
Malheureusement, non. Un détail, on ne sait jamais... Et il est toujours canté de noir. Moi aussi. J'ai aussi un détail qui peut-être vous intéressera. Un matin, il m'a demandé d'aller chez lui, prévenir sa concierge qu'il ne rentrerait pas. Mais il n'y avait pas de concierge à cette adresse, figurez-vous. Et personne ne le connaissait. Je me suis demandé s'il n'était pas fou. Autre chose que je tiens à dire. Il était insistant, beaucoup trop insistant, même quand madame ne voulait pas le voir. Une fois, j'ai dû l'expulser alors qu'il forçait la porte de l'appartement. Mais il revenait. Et elle, comme il lui avait fait une promesse...
Ah bon? Et quelle promesse?
De lui offrir des solitaires, voyez-vous, pour 7000 francs. Et il y a peu, il lui avait proposé d'aller repérer les bijoux chez un joaillier proche du palais royal. Mais il lui avait posé un lapin. Il n'est pas venu.
« Les amis et les bonnes racontent aussi qu'il prétendait avoir des biens en Amérique. Ce qui fait qu'au début, Camille Marie l'appelait mon petit Américain. Et qu'ensuite, comme il portait toujours un pardessus gris, elle s'était mise à l'appeler mon petit gris.
Et à la fin, vous voulez savoir comment elle l'appelait ? Elle l'appelait celui des solitaires.
Son amie Jeanne Richard dit qu'elle l'a vu partir de l'Éden Théâtre ce soir du 14 janvier.
Et elle était au bras de cet homme, celui dont on a parlé.
Début février, le juge Guillot fait arrêter deux hommes, mais finalement, ça n'est aucun des deux. Il s'intéresse aussi à un avoué de Charente, une sorte d'avocat.
Oui, je le reconnais, une relation intime avec Mademoiselle Aguétan. Mais à la date du crime, j'étais en audience. Vous pouvez le vérifier.
Et il n'a pas menti.
Bon. Maintenant que nous avons vu son entourage et que ça n'a pas servi à grand-chose, vous allez chercher dans son passé, messieurs, hein, parmi les hommes qu'elle a fréquentés. Nous cherchons un homme qui avait un compte à régler avec elle. D'accord ?
Les policiers trouvent un certain Émile-Pierre Brigonnet, qui a entretenu une relation d'un an avec elle entre 1878 et 1879, il y a 7 ans. Il s'est ruiné pour elle. Sa affaire mobile, ça. L'a tué et récupéré en quelque sorte sa mise. Mais lui aussi a un alibi. Dix mois après le meurtre, voilà qu'un homme se dénonce lui-même à la police.
C'est moi. C'est moi qui ai tué Camille Marie à Quétan.
Tiens. Et comment vous appelez-vous, monsieur ?
Je m'appelle Geoffroy. Charles Geoffroy.
Une aubaine. Sauf qu'il se déballonne devant le juge.
Pardonnez-moi, monsieur le juge. Mais j'ai régulièrement des hallucinations. Et je reconnais par ailleurs que je suis un peu porté sur l'agneau. Je ne la connais pas, cette femme. Je ne l'ai jamais vue. Et par ailleurs, je ne m'appelle pas Charles Geoffroy. Mon nom est Charles Gaston Pelzer.
Bon, ben voilà. On a exploré toutes les pistes et ça n'a débouché sur rien. Et le juge Guillot ordonne un non-lieu. C'est-à-dire que le dossier Aguétan va prendre la poussière dans les caves du palais. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, en mars 1887, on arrête dans une autre affaire un certain Henri Pronzini. Je vous ai déjà raconté son histoire à celui-là. Lui aussi a égorgé une femme galante pour lui voler sa fortune. Et de surcroît, il a éliminé les témoins, sa fille et sa bonne. Mais en janvier 1886, l'oiseau était en Égypte. Encore une fausse piste. Et le dossier Aguétan repart à son destin poussiéreux. Dix mois et demi après le meurtre, une autre affaire vient réveiller le dossier. À l'hôtel du Palais, cours de la Reine à Paris, un client commet un cambriolage dans une autre chambre. Et il prend une cassette rempli de pierres précieuses. Mais il se fait pincer place de l'Alma alors qu'il tente de prendre la fuite. Et au moment de son arrestation, les policiers le voient jeter dans la Seine un revolver qu'il avait sur lui.
Alors, monsieur, comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Stanislas. Stanislas Pardo et Rigo.
Les policiers fouillent ses poches.
Alors, nous avons ici des clés. Un porte-crayon en or, un canif et une montre à gousset.
Tous ces objets ont été volés dans la chambre cambriolée, sauf la montre à gousset sur laquelle figure un portrait de femme. L'homme est interrogé le lendemain et il avoue le vol. Et au passage, il rectifie son nom.
Il ne m'appelle pas Pardo, comme je vous l'ai dit hier. Il m'appelle Stanislas Prado Grigo. Je suis né à Barcelone.
Comment saviez-vous que l'occupant de la chambre en dessous de la vôtre avait des valeurs dans son coffre?
C'est-à-dire qu'il est espagnol, comme moi. Et je savais qu'il avait tenu une maison de prêt de gages à Madrid. Vous devez savoir que cet homme, il a eu des problèmes avec la justice en Espagne et il s'est échappé du bagne d'Alcala.
Bref, il l'a volé parce qu'il le connaissait et qu'il savait qu'il était riche. En attendant, le voilà inculpé. Et le juge qui a instruit le dossier se met à chercher d'autres trafiquants de bijoux, arrêtés depuis quelques mois et eux aussi d'origine espagnole. Et il identifie une femme, Mathilde Daul, à qui il présente la montre à gousset retrouvée sur le voleur Prado. Connaîtriez-vous ce bijou, par hasard?
Montrez-moi. Mais ça, c'est la montre du comte de Lisca de Castillon. C'est le portrait de sa femme. Morichette.
Le juge décide de la confronter au voleur Stanislas Prado Iribo. Quand il entre dans son bureau, surprise.
Oh, bonjour, monsieur le comte.
Monsieur le comte? Ce Prado ne s'appellerait donc pas Prado? Cet homme qui s'est fait appeler Pardo puis Prado serait finalement le comte de Linska. Mais quel sac de nœuds! Quel est son vrai nom?
Monsieur le juge, j'ai trouvé une trace d'un dossier dans lequel il se faisait appeler Mendoza.
On aurait donc affaire à un homme qui change de nom comme de chemise. Mais encore une fois, quel est son vrai nom? Pour le savoir, le juge envoie une commission rogatoire en Espagne. Qui est vraiment ce Pardo, Prado, Linska, Mendoza? Dans l'intervalle, une femme demande à parler au procureur.
J'entretenais une relation avec ce monsieur et il m'a fait une confidence qui va sans doute vous intéresser.
Très bien.
Allez-y. Laquelle? Il a commis un crime. Celui de Camille Marie Aquétan.
Et comment le savez-vous?
Il me l'a dit, je vous dis.
Et dans quelles circonstances?
Eh bien, un matin, je l'ai surpris en train de brûler sa chemise dans la cheminée. Et j'ai pu voir qu'il y avait du sang sur la manchette. Alors je lui ai demandé d'où venait ce sang. Et il m'a avoué le crime d'une femme. Et c'est quand j'ai lu dans le journal que cette Madame Aquétan était morte que... j'ai compris que c'est sans doute lui qui l'avait tuée. Alors je lui en ai parlé, franchement. Je lui ai dit, mon ami, avez-vous tué cette femme? Et il m'a dit que oui. Et il m'a donné tous les détails.
Ces détails peuvent m'intéresser. De quoi s'agit-il? Elle raconte que l'autre a trouvé la femme à l'Eden Théâtre où lui aussi avait ses habitudes et qu'il est rentré avec elle, qu'ils ont fait leur affaire au lit et qu'après elle lui a réclamé de l'argent.
Et lui, vous comprenez, n'avait pas un sou. Et il m'a dit qu'elle s'était mise à l'insulter et que là, il avait sorti une lame de rasoir et qu'il l'avait tuée.
Si c'est vrai, c'est bougrement intéressant tout ça. Ce Prado, quand il a été arrêté, vous l'aurez noté, n'avait pas sur lui les bijoux de Camille Marie. Alors si c'est lui l'assassin, où sont-ils passés, ces bijoux? Le juge Guillot décide d'aller sur place, à Madrid, en personne. Et la police espagnole lui ouvre une piste.
Les voleurs des bijoux chez nous, ils les revendent souvent dans une bijouterie qui est à l'angle de la Place Mayor.
Très intéressant. Accepteriez-vous de m'y accompagner?
Con mucho placer. Avec plaisir, monsieur le juge.
Le bijoutier est absent, mais sa femme est là, et le juge sort une photo de Prado.
Pouvez-vous lui demander si elle connaît cet homme?
Quieres saber si conoce este hombre?
Si, si le conozco. Es el conde de Linska de Castillon.
Tiens, tiens, le comte de Linska. Et comment le connaît-elle?
Il est venu me vendre des parures de bichons.
Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ces bijoux?
Si, une montre émaillée de diamants, un collier de trois ranchers, un peigne en écaille avec des brillants roses, des épingles de tête en écaille aussi, et pour un bracelet en or, avec une marguerite en brillant, et une fleur en saphir.
Et où sont-ils, ces bijoux, madame?
Mais nous les avons vendus.
Et à qui les avez-vous vendus?
Je ne me souviens plus.
Si, j'ai vendu les peignes en écaille avec les brillants à un certain José García Jimeno,
et qui a une maison de prêt sur gage.
La police espagnole et le juge se précipitent chez lui. Lui aussi connaît Prado sous le nom du comte de Linska.
Il connaît bien sa femme. Elle vient comme moi de la région de Saragosse.
Tiens, Prado aurait une femme légitime. Dolores, qui vit Calier de los Estudios, à Madrid. Les policiers et le juge vont la voir. Abandonnée par son mari depuis des années, elle vit dans la misère.
Avez-vous vu votre mari, madame, tout début 1886?
Si, si, le venu en février.
Les mains vides?
Non. Il m'a offert une épingle à chapeau et une petite bague.
Vous pouvez nous les montrer?
Malheureusement, non. Il s'est revendu aussitôt.
Le juge Guillot en sait assez. Il peut rentrer à Paris. Il n'a pas retrouvé les bijoux de la pauvre Camille Marie, mais on les a décrits en détail et le bijoutier de Madrid a fait des croquis qu'il montre aux amis de Madame Guétan.
Ah oui, je reconnais bien le peigne en écaille et aussi l'épingle à chapeau surmontée d'une abeille. Et la montre aussi.
Fin mai 1888, le juge confronte Prado aux découvertes qu'il a faites à Madrid.
Il n'est revendu qu'un bijou à Madrid. Il doit y avoir une erreur.
Très bien. Mais il n'y a pas que ça. L'ami de Camille Marie, Marie-Jeanne Fontanier, qui l'a vu partir avec la belle le soir du crime. Malheureusement, depuis, elle est malade, la tuberculose. Ses jours sont comptés. Le juge décide de les confronter et comme elle ne peut pas se déplacer, ça se passe chez elle, rue Pigalle.
Alors, est-ce que vous me confirmez que vous reconnaissez cet homme, madame, comme étant celui qui accompagnait votre amie Camille Marie la nuit de son assassinat?
Oui, je le reconnais.
Mais en fait, c'est impossible. Vous ne pouvez pas me reconnaître. Il n'était pas avec elle. Vous mentez.
Marie-Jeanne est épuisée par la maladie. Et elle finit par dire.
Je ne sais plus. Ça n'était peut-être pas lui. Je fais peut-être erreur.
La guigne. Le 23 juin, Prado est réentendu par le juge et il lâche un peu de lest.
Il reconnaît que j'ai vendu le bichon.
Mais il n'est pas tout et cette femme.
Alors, comment les aviez-vous,
ces bijoux, monsieur?
Silence.
Je vous demande comment vous aviez ces bijoux.
Eh bien, je les ai volés à un homme dans les trains entre Bordeaux et l'Espagne. Il l'a fait boire, il lui a pris sa valise, et les bijoux, ils étaient dedans. Et il les s'est vendus à la bijouterie de la Plaza Mayor à Madrid.
Le juge décide alors de le confronter à Eugénie Forestier, sa maîtresse venue le dénoncer.
Mais enfin, oui, Stanislas, tu m'as fait l'aveu du crime. Et tu m'as déclaré que tu étais allé en Espagne vendre les bijoux de cette fille, que tu avais assassinée en la ramenant de l'Éden.
C'était femme, ma. Elle s'est fâchée de moi, et je sais pas pourquoi, mais elle m'a, elle s'est fâchée de moi.
Le diable ne lâche rien. Mais il est bien parti pour la cour d'assises. Et sans doute pour la peine capitale. Le procès s'ouvre le 5 novembre 1888 devant la cour d'assises de la Seine. Prado s'y présente, vêtu d'une longue redingote noire, et il continue à jouer les grands seigneurs. À chaque fois que le président lui donne la parole,
« Je n'ai pas tué cette femme. Vous n'avez pas tué. Mais vous avez revendu ses bijoux, monsieur Prado. Vous l'avez reconnu sur procès verbal. D'abord, il ne m'appelle plus Prado. Je suis le comte de Glinska. Et je ne reconnais plus avoir vendu ses bijoux. Ce sont des avocats que la police m'a forcé à faire. »
Dans son box de la cour d'assises, Prado se comporte mal. Il nargue le président et il est insolent. Quand son ancien ami vient dire à la barre que oui, il lui a fait la confidence d'avoir commis le crime, il hurle.
Eh bien, maillonnez-moi. Si je suis à l'abattoir, assommez-moi.
Mais le défilé des témoins confirme que c'est bien lui qui était avec la belle le soir du crime. Et à la fin, le réquisitoire tombe comme un couperet.
Les crimes commis par l'accusé entraînent de facto la peine de mort.
Et c'est ainsi que ça se termine. Stanislas, Prado et Ribaud est condamné à la guillotine. On le met sous camisole et on le ramène à la prison de la Grande Roquette. Un mois plus tard, il écrit au président de la République pour lui demander sa grâce. En vain. Deux jours après, le bourreau Louis Debler installe la veuve, comme on l'appelle, dans la cour de la prison. Et le lendemain avant l'aube, on va chercher Prado dans sa cellule.
Je suis à vos ordres, messieurs.
On lui attache les chevilles, on l'emmène jusqu'à la guillotine. Et là, l'aumônier de la prison lui propose d'embrasser un crucifix. Il ne comprend pas l'autre. Et il répond au curé.
« Vous décidez m'embrasser ?»
Et puis, il croise le visage du chef de la sûreté et il lui assène.
« Adieu, monsieur le commissaire. Bonne chance pour votre carrière. »
Le coupeur est tombé. Et Prado, l'assassin, est enterré au cimetière d'Ivry. Nous allons débriefer cette histoire avec vous, Bernard Hotteclocque. Vous êtes historien, spécialiste entre autres de la police sous la Troisième République. Et je signale votre dernier livre aux éditions du Félin, le mai 68 de la Troisième République. Alors peut-être d'abord, si vous le voulez bien, un commentaire sur le verdict. La
oui.
peine capitale, c'est une évidence à l'époque, pour un assassin ?
Absolument, oui, un assassin crapuleux, quelqu'un qui s'est pris à une femme. Alors la seule chose sur laquelle l'avocat aurait peut-être pu jouer, c'est le fait que le crime n'avait peut-être pas été prémédité, n'avait peut-être été commis dans le feu de l'action. Mais finalement, Prado, qui niait en niant tout, a empêché son avocat de travailler dans cette direction.
Mais s'appelait-il vraiment Prado ? Alors, parce que toute l'histoire, on a un doute, et au moment où il est condamné, on se dit, mais est-ce qu'il condamne un type qui s'appelle vraiment Prado ?
Il est à peu près certain qu'il ne s'appelait pas vraiment comme ça. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, bon, la dactyloscopie en était à ses balbutiements, rien de plus facile que d'usurper ou de se créer une propre identité. Ajoutez à ça que le XIXe siècle adorait le rocambolesque et Prado s'était inventé une demi-douzaine de biographies toutes plus rocambolesques qui prétendaient avoir été un ancien combattant des guerres carlistes, prétendaient avoir fait fortune en Amérique, prétendaient, tenez-vous bien, être un fils naturel de Napoléon III, avoir épousé être le fils naturel d'un pape. Bref, il avait l'imagination fertile et les journaux en redemandaient.
Mais tout de même, il avait une femme.
Il avait au moins, alors il avait une bonne dizaine de maîtresses et au minimum une femme légitime que, vous l'avez rappelé, on a retrouvée en Espagne. Est-ce qu'il en avait d'autres ailleurs ? Pas un peu sous d'autres noms, pas impossible.
Bon, alors moi je suis assez stupéfait de l'énergie consacrée par la police parisienne pendant ces 3 années d'enquête.
Oui, absolument.
Je me suis dit qu'on déployait quand même beaucoup d'énergie pour l'époque.
Vous avez raison de le souligner, l'instruction a été anormalement longue. Entre le crime et le fait que Prado en ait été convaincu, il s'est écoulé plus de 2 ans. C'est-à-dire que l'instruction s'est heurtée à quand même plusieurs dysfonctionnements. Dès le départ, il y a eu plusieurs faux départs, vous l'avez rappelé. D'abord, c'était un petit peu la faute de la bonne. Le principal témoin, c'était la bonne. Et elle avait la manie de reconnaître tout le monde. On lui a présenté une demi-douzaine de suspects et chaque fois, elle les reconnaissait. Oui, c'est lui, sans le moindre doute. D'accord. Par contre, quand on lui a présenté Prado, faut dire que c'était 2 ans après, elle n'était plus très sûre. Donc, il y a eu plusieurs fausses pistes. Il y a eu également, il faut le rappeler, des dysfonctionnements de la police judiciaire parce que dès l'année 1887, les receleurs de Prado en Espagne l'avaient dénoncé, avaient envoyé des lettres anonymes pour le dénoncer à la PJ française. Et la PJ qui a mis tout simplement ces lettres au panier sans même chercher, sans chercher plus loin. Alors, l'instruction a duré plus de 2 ans et à un moment, elle a même été interrompue. Elle a été interrompue par un non-lieu en décembre 86.
Mais cette énergie de la police, elle est quoi ? Elle est politique ?
Je pense pas, non. Justement, non. Cette énergie de la police, moi je dirais que c'est plutôt l'énergie de la justice. Parce que...
C'est le juge Guillot qui est en tête.
Oui, c'est plutôt le juge Guillot. Et d'ailleurs, à un moment, il a été relayé par le juge Anquetil, parce que quand Prado a été interpellé en novembre 87, c'était pour vol de bijoux, avoir tenté d'assassiner le policier qui l'arrêtait, mais sans la dénonciation de sa maîtresse, qui a attendu encore plusieurs mois, eh bien, personne n'aurait pensé à le mêler à cette affaire Marie Aguétan. Vous savez, le lendemain du crime, la nuit du 14 janvier, le 15 janvier, Prado, absolument personne ne soupçonnait, est reparti pour l'Espagne. S'il avait eu le bon sens d'y rester, et s'il avait eu le bon sens de ne pas faire de confidence à sa maîtresse, non seulement il est à peu près certain qu'il aurait échappé au châtiment, et cette affaire serait restée non élucidée.
Alors dans cette enquête, il y a quand même un moment qui est étonnant, je trouve, pour l'époque. Oui. C'est que donc le juge Guillot prend le train, voyage quoi, une dizaine, douzaine d'heures à l'époque.
Trois jours,
et pour aller à Madrid. Sur fond de la justice française, c'est courant ça à l'époque ?
Absolument pas, non, vous avez raison de... Alors, je dis pas que ce n'est pas une première, mais c'est quelque chose d'assez rare. Bon, à l'époque, Interpol n'existait pas. Les polices collaboraient volontiers pour les affaires politiques, pour surveiller des terroristes, des opposants en exil, mais en matière de police judiciaire... je dis pas que ça n'existait pas, mais c'était s'il y avait un exemple par an ou un tous les 2 ans, c'était l'exception. Donc le juge Guillot a bénéficié d'une commission rogatoire internationale et vous avez raison de souligner ce caractère exceptionnel.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Bernard Hauteclocque, sur les femmes galantes à cette époque ?
Les femmes galantes à cette époque, c'était une véritable institution. Il faut savoir que la prostitution, là, pris au sens le plus large, ça concernait des milliers, des dizaines de milliers de femmes. D'ailleurs, vous l'avez rappelé au tout début de votre émission, de la malheureuse pierreuse, qu'on appelait comme ça parce qu'elle faisait ses passes dans les maisons en ruine, elle n'avait pas les moyens de se payer aux chambres d'hôtel, à la cocotte grande époque, il y avait un véritable abîme. Il y avait un rapport dans les revenus au moins de 1 à 1 million. Alors, c'est une institution qui s'est surtout développée sous le Second Empire. Imaginez-vous ce qu'on appelait la fête impériale. Tous les gens riches et célèbres d'Europe affluaient à Paris où les mœurs passaient pour être plus libres, où, disons, la censure, parce que la censure était beaucoup moins sévère qu'ailleurs en Europe, et des milliers de femmes galantes en profitaient. Après la seconde, après le Second Empire, il y a eu la défaite de 1870, il y a eu la Commune, qui était un véritable traumatisme. Il est clair que la galanterie de haut vol a subi un coup d'arrêt. Dans les années 1886, elle était en net recul par rapport à ce qu'elle avait été. Avant de reconnaître un nouveau paroxysme au moment de la Belle Époque, après l'exposition universelle de 1900. Mais ça restait une institution.
Est-ce que c'est pour ça qu'on trouve tous ces voleurs et ces trafiquants de bijoux espagnols à Paris à cette époque ?
Alors, il y avait effectivement, pas seulement espagnols, mais vous aviez effectivement une bonne partie de la pègre internationale qui était fixée à Paris, parce que c'était une ville riche, parce qu'elle passait, à tort ou à raison, pour moins plus libérale en manière de mœurs et en matière de surveillance policière. Ce n'était qu'à moitié vrai, mais bon, disons que c'était la réputation que ça avait. Et bon, comme la courtisanerie, la prostitution a toujours attiré des centaines de personnes qui en vivaient, de parasites, quoi.
Alors j'ai eu la curiosité d'aller voir ce qu'était l'Éden Théâtre, qui a priori, à l'époque, était un établissement qui attirait beaucoup de gens de ce milieu-là. C'était un théâtre tout neuf, il venait d'être construit. Vous avez deux, trois choses à nous dire là-dessus ?
L'Éden Théâtre, non, là j'avoue mon ignorance.
Je donne bien, c'était intéressant parce que c'était un théâtre de type indo-égyptien avec une pointe de mille et une nuits.
Aimait bien le rocambolesque et l'exotique à l'époque.
Voilà, c'était un très grand théâtre de 1600 places et ce que j'ai trouvé de très amusant, c'est qu'il abritait donc un théâtre, un jardin d'hiver, des restaurants, des commerces et un vélodrome souterrain. Un vélodrome, et on faisait du vélo sous le théâtre de l'Éden et il a été détruit assez rapidement, et aujourd'hui, à sa place, on a le théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Vous voyez, c'est moi qui vous apprends des choses.
Mais absolument, je vous remercie.
Est-ce que cette affaire a marqué le 19e siècle ?
Oui et non. Ça a été une cause célèbre, c'est clair, mais si vous comparez aux affaires Barème, Pranzini, Gouffet, qui sont à peu près contemporaines, il faut bien constater que l'impact sur les médias, c'est-à-dire sur la presse et sur le public, était moindre. Je crois que c'est surtout dû au fait, la concurrence de l'actualité politique. N'oubliez pas que les années 1887-89, ça correspondait à l'agitation boulangiste qui a justement connu son paroxysme un mois après l'exécution de Prado. Alors, les Français de l'époque étaient beaucoup plus friands d'histoire criminelle qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais l'actualité politique accaparait une bonne partie de l'attention. J'ajouterais aussi que comme l'instruction a été très longue, les gens se sont un petit peu lassés et...
Et peut-être que la présence des Espagnols au milieu n'a pas rangé l'affaire, c'est-à-dire c'était moitié espagnol, un peu rastaquaire, quoi.
En travaillant sur le dossier de presse, j'ai pas trouvé... Alors bon, je n'ai pas compulsé toute la presse, mais au moins les grands titres n'avaient pas fait vibrer l'aspect xénophobe de l'affaire. Bon, je dirais qu'au contraire, cet aspect exotique, rocambolesque, n'a fait que renforcer la popularité, c'est beaucoup dire, mais enfin la fascination que Prado a su susciter dans le public. Au contraire, le fait qu'il ait cet aspect énigmatique et international a plutôt servi sa légende.
Vous avez dit à l'instant qu'à l'époque, les Français étaient plus intéressés qu'aujourd'hui aux affaires criminelles, à ce point.
Et oui. Ah oui, absolument. Vous n'avez qu'à comparer les quotidiens de l'époque. Alors, faut dire qu'à l'époque, il y avait plus de 30 quotidiens qui paraissaient à Paris. Mais si vous comparez, l'espace qu'ils consacraient aux affaires à l'actualité criminelle ou même aux récits d'histoire criminelle qui appartenaient déjà au passé, l'espace qu'on leur consacre maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Vous aviez même des publications qui étaient spécialisées là-dedans. D'ailleurs, bon, la presse était le principal média, mais vous aviez aussi des chansons, des complaintes, voire des pièces de théâtre qui reconstituaient le crime.
Merci infiniment, Bernard.
C'est moi qui vous remercie.
Et mon petit doigt me dit qu'on se reparlera bientôt parce que vous êtes un formidable interlocuteur sur ce genre d'histoire pour lequel nous avons du mal à trouver des témoins directs, n'est-ce pas?
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.